Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Enfants battus, martyrisés, négligés, la maltraitance infantile est un sujet délicat, disons-le même, sujet tabou, terrible sujet parce qu'il renvoie au pire, un projet familial qui se transforme en cauchemar au quotidien pour l'enfant, brimé, violenté, insulté, les claques remplacent les caresses. Le dénigrement, les encouragements, les ecchymoses, les câlins. La maltraitance infantile, problème de santé publique, hein, l'Organisation mondiale de la santé le reconnaît, tout comme les autorités sanitaires françaises. Problème majeur de santé publique, explique d'ailleurs l'étude très complète publiée cet automne par le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et pourtant, la maltraitance, problème sous-évalué, documenté de façon imprécise compte tenu du silence qui pèse encore sur les différents acteurs impliqués. Manquement dans le repérage et les signalements des agissements criminels, manque de formation parfois, de moyens pour la prise en charge. Du côté des victimes, l'emprise, la peur, la honte, aussi la culpabilité limite la possibilité de parler, de dénoncer. Violence intrafamiliale, encore souvent banalisée, alors que cette année marque le trentenaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Droits essentiels, parmi lesquels figure précisément la protection de l'intégrité physique des plus jeunes d'entre nous, en insistant sur la vulnérabilité particulière d'individus en construction. Protéger l'intégrité physique et morale des plus vulnérables, lutter contre les maltraitances infantiles, avec nous en studio, docteur Cédric Grouchka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, vous présidez la commission Impact des recommandations au sein de cette institution, la HAS. Et on retrouve en direct de Grenoble, Sarah Laporte-Daube. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge de violences familiales. Vous avez signé le livre « Après la maltraitance, se libérer des blessures de l'enfance » publié aux éditions de l'Homme. Et vous vous trouvez dans les studios de France Bleu Isère que l'on remercie de vous accueillir. Tout à l'heure, nous retrouverons à Kinshasa le docteur Olivier Cana, actuellement engagé dans un master en médecine de famille à l'Université protestante du Congo. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport et santé du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Cédric Grouchka, j'employais tout à l'heure ce terme de enjeu de santé publique, question de santé publique, cette maltraitance infantile fréquente, hein, il faut le dire, pourtant toujours difficile à repérer. Comment expliquer le décalage qui existe justement entre l'ampleur du problème et puis les signalements, la connaissance précise, chiffrée, quantifiée de ces faits?
Alors, c'est, vous employez le terme de problème de santé publique, moi j'emploierais même le terme de fléau de santé publique. C'est un drame totalement occulté, mais qui, bien que nous n'ayons pas effectivement de données extrêmement précises en la matière, on a quand même un certain nombre de repères, j'en donne deux ou trois. Une étude très intéressante parue dans The Lancet, revue britannique médicale de très haut niveau, en 2009, estimée à 10% dans tous les pays à haut revenu, 10% des enfants qui subissaient des maltraitances. C'est un ordre de grandeur, mais qui nous donne quand même l'enjeu qu'il y a derrière. Et puis deuxième sujet, deuxième repère, il y a un travail remarquable réalisé par Anne Turtz à l'INSERM, à l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale, qui montrait que sur les morts d'enfants de moins de 1 an, on avait probablement 15 fois plus d'homicides que ce qui était déclaré. 15 fois plus. Pas 17 par an, 255 par an en moyenne. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de monumental. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les chiffres qu'il ne faut pas agir. On sait quand même que c'est fréquent, alors qu'effectivement on croyait que c'était rare. On sait que c'est grave, et le remarquable ouvrage de Madame Laporte le montre à l'évidence, et on peut agir quand même. On peut quand même faire des choses. Donc c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé s'est investie depuis de nombreuses années sur l'aide aux professionnels de santé pour leur dire, un, pensez-y, vous croyez que c'est rare alors que c'est fréquent. Deux, une fois que vous y avez pensé, essayez de repérer des signes qui sont très compliqués à repérer, qui ne sont pas des signes effectivement de maltraitance simple comme on peut l'imaginer. Parce qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, ça veut dire quand même qu'on passe à côté de 90% des maltraitances. C'est quand même incroyable. 90% des maltraitances ne sont pas repérées. Et troisièmement, une fois qu'ils y ont pensé, qu'ils sachent quoi faire, qu'ils ne restent pas seuls, qu'ils sachent vers qui se retourner, qu'ils aient des guides pour pouvoir aider et protéger les enfants. Donc c'est vrai, c'est un véritable fléau de santé publique, c'est un fléau occulté par la société, parce que je crois qu'il y a des ressorts sur l'ensemble des violences liées aux dominations de certaines populations, au sens de l'adulte par rapport à l'enfant, de l'homme par rapport à la femme. On est sur les mêmes ressorts de ce qu'on appelle faille narcissique, pour dire les choses de façon un peu simpliste. Et donc les mêmes ressorts de domination entraînent des réflexes de violence qui remplacent l'autorité.
Et quand justement c'est sous-déclaré, parce qu'on peut imaginer quand même que des parents qui en arrivent à un acte de violence qui va jusqu'à la mort du petit, certaines personnes peuvent se sentir coupables. Ces personnes sont quand même dans la dissimulation, il n'y a pas de reconnaissance de l'acte criminel.
Ça, sur les ressorts psychologiques, je laisserai Madame Laporte donner plus d'informations.
Mais ça veut dire qu'il y a dissimulation pratiquement systématiquement de la part de la sphère familiale.
Alors, de toute façon, il y a probablement dissimulation, bien évidemment, parce que sinon ça se saurait plus. Mais il y a surtout, et c'est ce qui nous intéresse nous à la Haute Autorité de Santé, une difficulté de la part des services de santé, des professionnels,
de l'extérieur du repérage.
De le savoir, du repérage. Voilà. Parce que le travail d'Anne Turtz a montré que les certificats médicaux n'étaient pas conformes à ce que les dossiers médicaux faisaient apparaître. Parce que les professionnels n'y pensent pas, ou un peu par déni, l'intolérable, on n'y pense pas immédiatement.
Alors, on va justement définir le sujet. Cette maltraitance, de quoi est-ce que l'on parle précisément? Dans votre livre, donc, qui est sous-titré « Se libérer des blessures de l'enfance », tout à l'heure, on parlera de cette réparation après le traumatisme, Sarah Laporte d'Aube. Vous posez dans le détail les contours de ces situations traumatisantes. D'abord, ce cadre familial, même si certains agresseurs peuvent être extérieurs à ce cadre. Et donc, cette famille, hein, théoriquement, idéalement, protectrice, et qui devient destructrice.
Tout à fait. Alors, peut-être pour situer les différents types de maltraitance, il y a effectivement la maltraitance physique, hein, que vous avez déjà évoquée, mais on y pense moins. Il y a aussi d'autres formes de maltraitance, comme la maltraitance psychologique, hein, les insultes, les dénigrements, les moqueries. Il y a également la manipulation mentale. Et ces types de maltraitance qui sont encore plus difficiles à détecter, hein, pour les professionnels, eh bien, elles peuvent faire autant de mal, être tout autant traumatisantes, hein. J'ai une patiente qui me disait les coups, les bleus liés aux coups sont partis. Par contre, les mots, ils restent en moi et ces mots, ils resteront toujours en moi. Hein, donc, ça peut faire tout aussi mal, tout aussi destructeur. Et puis, il y a aussi les abus sexuels qui, malheureusement, sont là aussi très répandus. Hein, d'après les chiffres, une fille sur cinq peut être concernée au cours de sa minorité par des abus sexuels. Et dans la majorité des cas, c'est par le biais de l'entourage.
Et vous le soulignez, Sarah Laporte d'Aube, blessure tout à fait déterminante dans la construction de la personnalité, et puis bien sûr pour sa santé mentale et également pour sa santé physique, présente comme future.
Tout à fait. C'est vrai que l'enfant qui subit toutes ces différentes formes de violence est traumatisé. Ces traumas, quand ils sont trop intenses, peuvent générer ce qu'on appelle une dissociation mentale, c'est-à-dire que l'enfant est coupé de ses émotions, de sa capacité à penser, et de ce fait-là, eh bien, toutes ces souffrances vont être en quelque sorte évacuées, mises à distance, et vont se vivre davantage à travers le corps. C'est pour ça que, pour moi, la plupart des patients que je suis qui ont été maltraités dans leur enfance vont présenter beaucoup de troubles physiques et notamment des douleurs chroniques parce qu'ils vivent toutes ces souffrances à travers le corps et qu'ils ne peuvent les mentaliser.
Et des maltraitances qui peuvent également engendrer des syndromes de stress post-traumatique.
Voilà, le traumatisme peut générer un syndrome de stress post-traumatique avec ce qui se caractérise par un envahissement émotionnel dès que le moindre stimulus réévoque, réactualise le traumatisme, mais aussi un évitement. Hein, et donc, c'est en ce sens que tout ce qui est lié au traumatisme peut aussi être mis à distance et va faire retour à travers des symptômes. Hein, j'évoquais tout à l'heure la somatisation, mais c'est toutes sortes de symptômes, l'anxiété, la dépression, les troubles également de la personnalité. Ça va vraiment pouvoir avoir un impact, y compris sur la construction de la personnalité et les traits de personnalité. Pour donner quelques exemples, amener une dépendance affective, par exemple, ou la formation d'une personnalité obsessionnelle, etc.
Et aussi une fragilité, par exemple, par rapport à certaines addictions.
Oui, ça c'est effectivement un des symptômes qu'on retrouve le plus souvent. Ce sont les addictions qui permettent en fait d'éviter de se confronter à la détresse émotionnelle. Et bien donc la personne va se réfugier à travers ces addictions qui apportent du plaisir et qui donc va s'auto-entretenir, mais qui également permet d'enfouir plus profondément la détresse émotionnelle.
Docteur Cédric Grouchka, lorsqu'on parle d'enfants en danger, de qui parle-t-on exactement ?
Alors, on parle par définition de tous les enfants qui soit subissent une maltraitance de façon régulière et dont on doit les extraire immédiatement. Et ça, nous disons très clairement aux professionnels de santé que, par exemple, lorsqu'ils font un repérage éventuel d'une maltraitance en train de se passer, il y a la possibilité, soit avec le procureur d'envisager des extractions judiciaires, soit avec le service de santé d'envisager immédiatement une hospitalisation. L'hospitalisation peut être un moyen de protéger dans l'immédiat l'enfant. Et puis après, il peut y avoir les repérages sur des maltraitances plus complexes à repérer, qui sont par exemple les maltraitances notamment effectivement psychiques, verbales, qui peuvent avoir une évocation beaucoup plus complexe à repérer. Et là, le travail du professionnel de santé, il est dans la confiance d'essayer à faire en sorte de repérer les choses et de signaler. Après, il y a un autre point quand même extrêmement important, qui est celui du dévoilement. Parce qu'il y a la protection de l'enfant en train de se passer, mais notamment avec tout ce que vient d'évoquer Madame Laporte-Borne, il y a le sujet du dévoilement et de la reconstruction. Et ça, c'est un travail qui, pour l'instant, n'a pas été mené au sein de la Haute Autorité, que nous allons mener, qui est celui de donner des repères aux professionnels de santé pour aider au dévoilement qui, en moyenne, tourne autour de 15 à 20 ans après les faits. Donc c'est quand même extrêmement lourd. Pour les aider à la reconstruction.
De la révélation. Mais vous le soulignez, ce travail de la Haute Autorité de Santé qui dit clairement, noir sur blanc, alerter est un acte médical et vous insistez là-dessus.
Oui, c'est un acte médical parce que les médecins et les professionnels de santé en général ont peur en réalité de ces effets, de ces éléments de violence qui sont des sujets de société et qui leur donnent l'impression à tort que ce n'est pas dans le champ de leur profession, de leur métier, de leur déontologie.
De s'immiscer en gros dans les affaires de famille.
De s'immiscer dans quelque chose, voilà. Alors que 80% des maltraitants sont intrafamiliales. Mmh. Donc le sujet comme. Donc bien évidemment, il faut leur expliquer que c'est un acte médical. Le fait de dire aux services sociaux ou de dire au procureur qu'il y a une suspicion de maltraitance, c'est un acte médical. On leur demande surtout pas de se substituer à la justice ou à la police. On leur demande pas d'enquêter. On leur demande même pas d'apporter la preuve de la maltraitance. On leur demande simplement d'avoir un faisceau de présomption suffisant pour dire attention, il faut une enquête sociale ou une protection judiciaire immédiate parce qu'il y a un risque de maltraitance. C'est un acte médical. Et par ailleurs, ils ne risquent rien, ni au plan pénal, ni au plan civil, ni au plan ordinal. Ils ne risquent rien, ils sont protégés complètement, pourvu qu'ils ne dénoncent pas, qu'ils ne disent pas qui est à l'origine. Ce n'est pas leur rôle, on leur demande juste de constater et éventuellement de relater ce que l'enfant leur dit, entre guillemets. C'est tout ce qu'on leur demande.
Alors justement, ce repérage qui est d'autant plus compliqué, Sarah Laporte-Daube, qu'il y a ce qu'on appelle, ça se passe pour les affaires judiciaires, mais là aussi la loi du silence. Et ce silence, cette rétention d'informations qu'on a bien compris du côté de la victime, parce qu'il y a peur et puis qu'il y a aussi parfois honte et culpabilité.
Oui, il y a vraiment toute une série de causes qui expliquent que l'enfant, la plupart du temps, ne parle pas et que quand il parle, c'est difficile pour lui de parler. La première, c'est que l'enfant se sent responsable, en fait, de cette maltraitance. Il ne peut pas s'autoriser à penser que c'est son parent qui est responsable, tout simplement parce que il est dans un lien de dépendance à son parent et que ce lien de dépendance le rend vulnérable. C'est-à-dire que il a plus besoin d'avoir une image d'un bon parent que d'avoir l'image, une bonne image de lui-même. Donc, de ce fait-là, eh bien, l'enfant se sent responsable et donc va avoir honte et se sentir coupable, avoir le sentiment que c'est de sa faute s'il subit toutes ces sévices. Et puis, il y a aussi la peur des représailles, parce que parfois, le parent va être menaçant verbalement, et parfois simplement l'enfant va comprendre qu'il y a un risque pour lui, le risque de ne pas être cru, le risque aussi eh bien, que derrière le parent en quelque sorte se venge en aggravant encore les sévices que subit l'enfant. Et puis il y a aussi la peur d'être abandonné pour l'enfant, et malheureusement c'est aussi des choses qui arrivent, c'est-à-dire que parfois quand l'enfant ose parler il peut être un petit peu mis à distance par son parent qui reste dans le déni de la maltraitance. Et puis, il y a une autre raison aussi qui explique que l'enfant ne parle pas, c'est que, eh bien, pour lui, il n'a pas forcément d'autres repères. Hein. Parfois, en grandissant, il va un peu chez les copains, il se rend compte que c'est différent. Mais les enfants jeunes, par exemple, n'ont pas forcément d'autres repères et donc vont penser que c'est normal ce qu'ils vivent et que c'est comme ça dans toutes les familles.
On va se retrouver dans quelques instants, mais tout de suite, un témoignage.
RFI.
Ce témoignage, c'est celui de Lies Loufoque, auteur de « Dans l'enfer des foyers », publié aux éditions J'ai lu. Aujourd'hui, il est porte-parole de l'association La Cause de l'enfance. Il a connu la maltraitance lors de placements multiples dans des familles d'accueil au sein de l'aide sociale à l'enfance. Récit très éprouvant d'une enfance bafouée. Raphaël Constant l'a rencontré.
J'ai dû partir de chez la première personne que j'ai identifiée comme étant tout de suite, je pense, une mère, pour aller dans une deuxième famille d'accueil, sauf que pendant 2 ans, cette dame était d'une violence inouïe. Enfin, déjà, c'est un âge où normalement on est censé aller à la maternelle. Moi, je n'y allais pas. Je restais enfermé pendant 2 ans dans une pièce parce que c'était pas une chambre, c'était une pièce. Il y avait pas de lit, il y avait pas de meubles. C'était un morceau de polystyrène à même le sol. Et elle m'enfermait là-dedans parfois pendant plusieurs jours. J'avais pas le droit de manger avec eux puisque ça faisait parfois plusieurs jours que j'étais dans cette pièce. Des fois, je m'urinais dessus ou je me faisais caca dessus. Et ça avait le don de la mettre en colère. Donc du coup, c'était soit des douches très froides avec des coups, soit des douches brûlantes avec des coups aussi.
Et donc pendant 2 ans, aucune éducatrice est venue prendre de vos nouvelles. Comment vous, à 5 ans, vous avez géré ça ?
Je crois qu'on ne le gère pas, en fait, et que ça s'impose à nous comme une fatalité. Hein. Moi, j'ai des souvenirs encore très précis de cette époque-là, malgré mon jeune âge. Ce qu'on est amené à subir, finalement, devient, pour que ce soit plus supportable, quelque chose de banal. Après, c'était une femme extrêmement sadique, donc évidemment, il y avait des moments qui étaient plus durs que d'autres. Et j'irais même jusqu'à dire que, finalement, les coups n'étaient pas le plus important. Ce qui a été le plus douloureux pour moi sur cette période-là, ça a été la solitude et ça a été un peu tout ce qu'elle a entrepris pour détruire mon passé. J'étais arrivé avec plein de jouets, plein de peluches de chez ma première famille d'accueil, de chez Émilie. Et la première chose qu'elle a faite, ça a été de tous les prendre et de tous les jeter à la poubelle, par exemple. Et ça, je me souviens que ça m'avait brisé le cœur. C'était mes doudous, quoi. Donc c'était les seules choses qui pouvaient me ramener un peu à du positif et à ce que j'avais connu avant. Et ça, elle l'a détruit complètement. Quand on me dit que je pars de chez ma deuxième famille d'accueil pour aller dans la troisième, on ne prend pas en considération mes besoins, on ne prend pas en considération les traumatismes que j'avais déjà subis et on ne prend pas en considération les capacités de la personne qui allait m'accueillir. Et on m'a mis seulement là où il y avait de la place. Et donc, quand j'arrive chez elle, il a fallu s'apprivoiser pendant un long moment. Et donc, moi, j'exprimais les violences que j'avais subies déjà à cette époque-là, puisque j'étais un enfant très turbulent. J'ai nourri très vite une colère, que ce soit à l'école ou chez elle, voilà. Et pas très bien dans mon corps et dans ma peau. Et ça a toujours été voilà ces moments de crispation-là. Et jusqu'au jour où elle décide de me donner du Valium, du Tertian, du Risperdal, qui sont 3 médicaments extrêmement forts. Donc à cette époque-là, j'ai été shootée au Médoc finalement.
Et à ce moment-là, vous retourniez à l'école, on vous a réinscrit dans un cycle scolaire. Et est-ce que vous en parliez ?
J'étais très 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 proche d'une maîtresse que j'avais en école à l'école primaire, et je lui en ai parlé à plusieurs reprises. Ça n'a jamais été entendu avec l'importance que ça aurait dû être. Après, moi, il y a un moment où Donc c'est vrai que je me mettais quand même pas mal en danger. J'avais des conduites à cet âge-là déjà assez à risque, hein, parce que je fuguais à 8 ans. Moi, je prenais mon vélo, je dormais dans la forêt pendant plusieurs jours. Enfin, n'importe quoi. Quelque chose que les enfants de mon âge ne font pas. Et donc ma famille d'accueil à cette période a décidé du coup qu'elle n'était plus capable de me protéger. Et donc un matin, mon éducatrice est venue et elle m'a annoncé que j'allais partir pour aller dans un foyer. La première année a été extrêmement difficile puisque j'ai été victime de violences par des enfants qui vivaient avec moi, beaucoup plus âgés pour certains. La violence, elle s'exprimait de façon très sadique, hein. Il y avait un grand, par exemple, qui nous faisait bouffer ses excréments. C'est des choses qui ont poussé une de mes amies au suicide. Et moi, la première année, j'étais à deux doigts, je crois, de faire comme elle, puisque j'ai aussi été victime de violences sexuelles. Et ça m'a profondément marqué, et à vie, je crois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai aussi énormément banalisé pendant longtemps. Parce qu'on est victime de violences par les enfants, mais aussi par les professionnels. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, on m'a mis dans une famille d'accueil pour 15 jours. Et cette famille d'accueil, le premier jour où je suis arrivé chez elle, m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée. Elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là ?» Et elle a eu une réaction qui m'a fait du bien. Elle m'a dit « Des enfants comme toi, j'en ai eu beaucoup chez moi et tu n'es pas le seul. »
Est-ce que vous apercevez les répercussions de ces différents types de maltraitance dans votre vie d'adulte ?
Moi, aujourd'hui, je suis incapable d'avoir une relation amoureuse avec qui que ce soit. J'ai toujours eu des relations très distendues avec mes amis, avec les personnes que je côtoie. Je pense que ça traduit une instabilité dans les relations qui est assez importante. Tout le travail qui a été le plus important pour moi, ça a été de récupérer une confiance en moi-même. Parce que pendant longtemps, je me suis énormément dévalorisé. Pendant longtemps, j'avais pas confiance en moi.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à faire passer ?
N'ayez absolument pas peur de parler, parler, parler. Ne restez plus dans le silence. Le silence ne nous protège absolument pas.
Lies Loufoque, aujourd'hui membre du Conseil national de protection de l'enfance, éducateur spécialisé, au micro de Raphaël Constant. On vous retrouve, Sarah Laporte-Daube, en duplex de Grenoble, toujours dans les studios de France Bleu Isère. Parler, sortir du silence, et puis on entend ce recul pris, cette capacité justement de décrire et de parler, même si Lies Loufoque témoigne encore de ses souffrances actuelles.
Oui, tout à fait. C'est un témoignage vraiment fort hein, qu'il livre ici. Et on sent effectivement, comme vous le dites, qu'il a déjà pris beaucoup de recul, ce qui n'est pas le cas souvent quand les victimes ouvrent la porte du cabinet au départ, hein, où il y a souvent beaucoup de banalisation, de minimisation, d'où l'importance de pouvoir effectivement, parfois seul, mais quand même souvent avec un professionnel, eh bien poser des mots sur ce qui s'est passé. Poser des mots tels que abus sexuel, crime, violence physique. De pouvoir nommer les choses, ça permet de pouvoir eh bien sortir justement de la culpabilité, de la honte, réattribuer correctement les responsabilités. Donc il y a tout ce premier travail, je dirais, ce travail cognitif, ce travail sur la pensée, pour vraiment prendre du recul. Effectivement, ça fait pas tout, puisqu'il y a aussi tout un travail à faire pour gérer les émotions, pour traiter les traumatismes, et ensuite effectivement travailler aussi sur les relations avec les autres pour pouvoir restaurer des relations plus équilibrées sur le plan affectif avec les autres.
Et puis en entendant ce témoignage, hein, docteur Cédric Grouchka, on pointe un autre aspect de cette maltraitance infantile, on a envie de dire processus infernal, c'est des réponses complètement inappropriées, et puis la répétition de sites d'accueil en famille, c'est la catastrophe dès qu'il ouvre une porte.
Alors, du côté de la Haute Autorité de Santé, nous n'avons aucune mission générale sur la protection de l'enfant. Donc, je ne peux pas vous répondre sur ces sujets qui concernent l'ensemble de la chaîne, si je puis dire, de la protection. Je pense qu'il faut quand même, surtout vis-à-vis des professionnels de santé, pour lesquels nous essayons vraiment de les sensibiliser au repérage et à agir, qu'ils pensent vraiment quand même que la protection de l'enfance, globalement, ça marche bien. Et qu'on a une grande chance en France d'avoir l'aide sociale à l'enfance, qui est un dispositif qui, même s'il doit être amélioré, est un dispositif qui fonctionne. Donc il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut surtout pas s'auto-censurer, parce qu'il y a des vrais dysfonctionnements qui doivent être corrigés. Je pense que c'est un élément quand même assez important. Le message fondamental vis-à-vis des professionnels de santé, c'est de leur dire, Attention, c'est fréquent, pensez-y. Deuxièmement, n'attendez pas des signes spécifiques, ce seront vraiment des signes qui risquent de ne pas être très évocateurs. Troisièmement, vous pouvez agir, vous pouvez changer les choses, vous pouvez protéger les enfants. Ça, c'est vraiment trois messages extrêmement fondamentaux vis-à-vis d'eux. Et si l'ensemble de la chaîne, puisque nous n'apportons qu'une brique, certes elle est probablement importante, nous n'apportons qu'une brique dans l'ensemble de l'édifice, il ne faut pas que l'ensemble de la chaîne puisse être fragilisé par justement... Je vais vous donner quand même une chose importante. Vous savez que les signalements aux services sociaux ou à la justice viennent de 30% des services sociaux eux-mêmes, 20% de l'éducation nationale, 17% des voisins, 7% de la police. 5% oui, seulement des professionnels.
C'est très très peu.
5%, donc 4% de l'hôpital. 5%. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un pour cent des signalements qui viennent des professionnels qui sont en réalité en relation permanente avec les familles et avec les enfants, qui sont les médecins de premier recours ou d'autres professionnels de santé, ou les pédiatres, qui sont au contact permanent. Ils passent à côté de 90%. Il ne faut surtout pas les culpabiliser, c'est qu'on ne leur a pas appris. Donc le but n'est pas de les pointer du doigt, au contraire, de leur donner des outils pour leur permettre de mieux repérer et de mieux signaler et donc de mieux protéger les enfants.
Alors, on va évoquer dans quelques instants le chemin de la reconstruction hein, que vous évoquez dans votre ouvrage après la maltraitance, hein, Sarah Laporte d'Aube. D'abord, on va donner la parole à un auditeur de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est un témoignage qui nous vient du Cameroun, de Yaoundé, avec Idi qui est en ligne avec nous. Bonjour Idi.
Bonjour madame.
Alors quand vous avez su que Priorité Santé traitait aujourd'hui de la maltraitance infantile, vous avez voulu nous raconter votre histoire justement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait à la maison?
Bon, je dirais à la maison ça ne s'est passé pas bien. Madame, moi j'ai connu... un papa très sévère qui nous menaçait tous, hein, les enfants comme la mère. Donc j'ai grandi un peu dans cet état-là. Moi aujourd'hui je suis âgé de 25 ans et quand je sors aujourd'hui de la famille, je constate que je suis vraiment handicapé, je dirais émotionnellement.
Vous dites votre papa vous menaçait, mais il passait aussi aux actes. Votre père vous frappait?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le genre de châtiment corporel qu'il vous infligeait? Et j'imagine qu'il infligeait aussi aux autres membres de votre famille, par exemple à vos frères.
Ah oui, les châtiments corporels, on dirait, il les fouet, hein, il fouette tout le monde, lui.
Il fouette à la chicotte? Il fouette avec une chicotte?
Oui, oui, c'est ça, madame.
Et c'était pour quel genre, on va dire, même si ça ne justifie absolument rien, c'était pour quel genre de bêtises il vous frappait quand vous faisiez quoi, précisément?
En tout cas, c'est un peu difficile de le dire. Aujourd'hui, je suis pas dans la famille, ça fait un temps, mais juste pour des petits trucs, non, madame. J'étais envoyé aller acheter ceci ou cela, tu n'es pas allé, ou alors tu as insulté ton frère, ou alors tu n'as pas bien fait ton lit, des choses du quotidien juste.
Des choses très très simples qui ne méritent en aucun cas, à la limite de ce qu'on dit communément pour des enfants, on peut se faire gronder, mais ça s'arrête là. Quand vous êtes parti de la maison, est-ce que justement vous êtes parti aussi pour couper justement avec ces violences en famille?
Oui, oui, c'est justement ça le problème, madame. Aujourd'hui, quand je suis dans la vie active, je constate que je suis quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Je n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour me construire la vie. Aujourd'hui, quand je vois mes amis, mes camarades entretenir des projets un peu ambitieux, moi, je regarde ça comme ça. Je n'arrive à ne rien faire. Et devant la vie, j'ai envie de ne rien à faire.
Vous avez conscience, justement, il dit que ce qui s'est passé dans votre enfance aujourd'hui vous empêche d'avancer. Vous avez pensé à en parler à quelqu'un? Vous en avez parlé à vos amis, c'est une chose excellente. Vous avez pensé à en parler à un médecin ou à quelqu'un d'autre, quelqu'un auprès de la communauté qui pourrait vous aiguiller?
Ben oui, tout récemment, je suis allé à l'hôpital en parler un peu avec un médecin.
Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il ne m'a pas dit grand-chose. Il m'a juste prescrit quelques examens que je devais faire, et puis c'est tout.
Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'autour de vous, eh bien, on trouve que ce n'est pas si grave que cela, alors que pour vous, comme vous l'avez expliqué, c'est quelque chose qui vous a vraiment blessé?
Voilà, voilà, c'est exact. C'est ça le problème. C'est que je n'arrive pas à extérioriser tout ce mal que je vis. Aujourd'hui, personne ne me comprend quand j'agis. Souvent, je reste enfermé dans ma chambre toute la journée. Je n'ai envie absolument de rien, de parler à personne, de ne rien faire. Et souvent, quand on me parle, j'écarquille simplement les yeux. Je regarde la personne comme ça. Je n'arrive pas à extérioriser ce que j'ai ressenti. Tout le monde ne me comprend pas. On me dit juste que toi, tu es un enfant gâté, tu ne veux rien faire. Tu es tout récemment... Je me souviens quand je parlais avec une amie, elle m'a carrément dit que toi, tu es un prématuré, tu ne peux rien faire dans la vie.
Donc finalement, c'est sur vous qu'on rejette une nouvelle fois la faute. Hein. Psychologue, psychothérapeute, Sarah Laporte-Daube, bien sûr, on ne peut pas faire de consultation par téléphone, il n'en est absolument pas question. Mais ce qu'on voit, c'est que l'entourage continue d'enfoncer Idi, alors que lui, il a le courage justement de dire « ça suffit, moi j'ai envie de m'en sortir, je ne supporte pas ces violences, je ne supporte pas ces maltraitances, il n'a plus envie de ça, il a envie de vivre sa vie et... » Autour de lui, on lui dit « tu exagères ». C'est absolument effarant, Sarah Laporte-Daube.
Alors, c'est vrai que c'est effarant, mais effectivement, c'est fréquent que ça se passe comme ça. D'ailleurs, Boris Cyrulnik parle à ce sujet de cascade de traumatismes, hein, parce que il y a les traumatismes que l'enfant vit dans son milieu familial avec le parent maltraitant. Et puis après, il y a le traumatisme lié aux réactions de la famille, parce que la plupart du temps, en tout cas, la famille va plutôt prendre fait et cause pour le parent maltraitant, hein, parce qu'il y a aussi cette emprise, hein, qui fait que l'enfant se retrouve seul. Et puis, il y a aussi, derrière, le réseau social, la société, qui là aussi va être soit dans le déni ou la minimisation, la banalisation. Et donc la victime ne va pas pouvoir être prise en compte dans sa souffrance. La victime va être perçue à travers ses symptômes de mal-être et ces symptômes ne vont pas être compris comme étant justement un symptôme qui cache une cause plus profonde. Donc de ce fait-là, souvent les victimes peuvent se sentir incomprises. Et à ce moment-là, effectivement, il est quand même très intéressant pour les victimes de pouvoir s'orienter vers un suivi psychologique, vers une psychothérapie pour pouvoir se reconstruire. Peut-être, je voulais rajouter aussi un point par rapport à cette question de la sévérité qui était évoquée par Idi au début de l'interview. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a de continuum, hein, contrairement à l'idée reçue, entre sévérité et maltraitance. En fait, c'est deux choses différentes. Hein. La maltraitance, ce n'est pas une autorité un petit peu accentuée. La maltraitance, c'est autre chose. L'autorité, ça permet d'intégrer des règles. Donc l'autorité est nécessaire pour l'enfant. Ça lui permet voilà, d'avoir des repères éducatifs. Alors que la maltraitance, c'est la loi du plus fort. Elle est menée, cette loi du plus fort, sous le prétexte de l'intégration des règles, mais elle n'a rien à voir avec une intégration des règles.
Merci beaucoup hein, pour ce commentaire, Sarah Laporte-Daube. On veut remercier surtout Idi hein, qui a eu le courage de témoigner à notre antenne. Merci infiniment Idi pour votre témoignage et bonne continuation au Cameroun. On poursuit cet échange, docteur Cédric Grouchka. Est-ce qu'on peut aller parler de certaines sociétés qui vont jusqu'à être, dans une certaine mesure, bienveillantes avec la maltraitance infantile, même si justement la façon de raconter la maltraitance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, ça se retrouve dans les contes de fées, ça se retrouve dans la littérature. On a tous en tête Oliver Twist, on a tous en tête Cosette dans Victor Hugo qui est maltraitée, qui est abusée, qui est exploitée. Ce n'est pas une vision de l'esprit de certaines sociétés, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais malgré tout, pour certaines personnes, c'est presque normal. Hein.
Oui, parce que tout cela, en réalité, répond à des ressorts archaïques de la domination du plus fort sur les faibles. Et l'humanité a toujours eu du mal à s'extraire de son animalité qui la tire en permanence vers le bas et notamment vers ce rapport de force systématique du plus fort vers le plus faible. Je vous disais tout à l'heure, les ressorts concernant les violences conjugales sont les mêmes que les ressorts sur les maltraitances infantiles. Donc, quelque part, c'est vraiment la domination du plus fort. Je voudrais vraiment dire quand même quelque part qu'il faut, quels que soient les environnements, quelles que soient les cultures, quelles que soient les civilisations, dire qu'il y a un intangible, il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Et détruire, c'est mal, et construire, c'est bien. Et que la violence dans l'éducation n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité d'expliquer, d'excuser, de justifier la moindre violence, y compris limitée. Hein. Vous savez qu'on a eu ce débat important sur la fessée en France il n'y a pas si longtemps que ça. Ben oui, bien sûr, tout acte de violence, qu'il soit petit ou grand, ne peut pas être un acte d'éducation. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est ni explicable, ni justifiable. Ça ne sert à rien. Toute la violence dans l'éducation... Quand on est dans un milieu professionnel et qu'on n'est pas d'accord avec un collaborateur qui est sous notre responsabilité, on ne va pas commencer par lui donner une gifle. On ne va pas commencer par l'agresser physiquement.
Ça va très mal se terminer, sinon.
Voilà. Et bien, pourquoi ? Est-ce que parce que les enfants ne peuvent pas se défendre, parce qu'ils sont plus faibles et qu'on prétend avoir une sorte de pouvoir et de domination et de propriété sur eux, on se permettrait ce type de violence ? C'est inacceptable, quelles que soient les cultures, quelles que soient les civilisations.
On a un autre témoignage en ligne. On a peu de temps, mais je tenais quand même à faire passer Aïcha, qui a eu le courage de nous appeler pour qu'on entende son témoignage. Bonjour Aïcha.
Oui, bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Très bien, je vous suis reconnaissante. Donc j'appelle de la région parisienne.
Mmh.
Voilà, je tiens à témoigner, étant donné que votre sujet me touche personnellement en ce qui me concerne. Donc tout simplement, quand j'étais toute petite, je faisais l'objet de gifles, de coups parfois très violents. C'était vraiment... je servais de défouloir, voilà, à mes parents principalement. Le frère aîné a pris la relève à la demande de ma mère. Ensuite, je pense qu'il y a eu des négligences aussi de la part de mes parents parce que j'ai été violée à l'âge de 8 ans par une personne extérieure à ma famille alors que j'étais partie acheter du pain, tout simplement, à la demande de mes parents, de ma mère. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas besoin de ce pain, finalement, et je me suis sentie complètement abandonnée. Ce qui fait que ces scènes de violence se sont réitérées même à l'adolescence. Ça pouvait être des coups de pied, des coups de poing. Par exemple, une fois, mon père était rentré du travail et lorsqu'il a vu que mes lunettes étaient cassées et comme voilà, il était ouvrier, pas beaucoup d'argent pour payer les réparations, bah, il s'est mis à me frapper très violemment. C'était des coups de pied, des coups de poing sur la tête. Ma mère qui l'encourageait à réitérer ses actes de violence. Et elle était en permanence en train d'encourager ce type de violence. À un tel point qu'à l'âge adulte, à 30 ans, je suis partie de la maison dès que j'ai eu un métier.
Mmh.
Dès que j'ai pu partir faire mes valises, donc j'ai changé de région en France et ça m'a permis de me mettre en sécurité pendant un certain nombre de temps, sachant que quand j'étais encore chez ma famille avant mes 30 ans, j'ai encore fait l'objet de deux viols à la maison même de ma mère. Qui n'a pas réagi, qui n'a pas appelé la police, qui en plus connaissait les deux personnes qui m'avaient violée. Voilà, c'était complètement pour moi hallucinant.
Aïcha, vous avez été prise en charge, par des médecins, psychologues.
Alors j'ai pris l'initiative d'aller voir un médecin pour chercher un psychologue, un psychothérapeute, sachant que j'ai dû changer depuis l'âge de 18 ans plusieurs fois de psy. Étant donné qu'il fallait vraiment un psy qui ait une méthode adaptée à ma situation personnelle, parce que parfois, selon les méthodes, elles ne conviennent pas forcément. Donc là, je suis encore suivie jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et je suis encore suivie.
Est-ce que vous avez coupé tout contact avec votre famille aujourd'hui ?
C'est plutôt l'inverse, c'est ma famille qui a coupé contact avec moi.
Est-ce que ça vous fait du bien, cette distance ?
Non, franchement non, et parce que je me sens complètement... abandonné au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire mise au banc. Je suis vraiment mise au banc. J'ai l'impression d'être accusée d'avoir été une enfant, tout simplement.
Ils n'ont jamais reconnu leur tort. Ils n'ont jamais reconnu leur tort.
Jamais. J'ai mon père qui est décédé il y a une vingtaine d'années, donc j'ai jamais voulu en reparler ni remettre ça sur la table. Il est décédé il y a une vingtaine d'années. J'ai ma mère qui est encore vivante, qui a plus de 70 ans et J'ai pas ni la force ni le courage de lui en reparler. Par contre, elle m'a jamais présenté d'excuses, elle m'a jamais dit pardon, pour elle c'est normal quoi, c'est complètement banalisé dans son esprit, sachant qu'elle était la chouchou de sa famille. Donc pour moi c'est hallucinant. Elle était comme une princesse quoi. Elle vivait comme une sultane, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, elle vivait comme une sultane, comme une princesse, lorsqu'elle était adolescente après la guerre d'Algérie. C'était après la guerre d'Algérie, mais elle vivait bien. Après la guerre, franchement, elle vivait bien, comme une princesse, elle était chouchoutée, elle a jamais fait l'objet de violence quelconque.
On vous remercie infiniment, Aïcha, pour ce témoignage. Merci beaucoup pour de nous avoir raconté une petite partie, bien sûr, de votre histoire. Sarah Laporte d'Aube, ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu la souffrance, l'horreur, malgré tout, la volonté de maintenir le lien.
Oui, alors il arrive que quand on a été victime de maltraitance, on souhaite maintenir le lien et on se sent dans un état de dépendance vis-à-vis du parent maltraitant, ou il arrive à l'inverse qu'on cherche à couper les ponts de façon un peu brutale. Et en fait, c'est presque la même chose. On peut dire que c'est deux opposés, mais qui se rejoignent. Ça montre qu'il y a encore une emprise de la part des parents. Et cette emprise, eh bien, elle ne dure pas le temps de l'enfance. Elle peut durer toute une vie. Mais justement, d'où l'intérêt d'un travail thérapeutique qui permet petit à petit de se dégager de l'emprise et de pouvoir faire des choix qui sont bons pour soi, hein, en prenant ses distances, des distances psychiques avec ses parents. Mais c'est vrai que c'est en général un travail effectivement de longue haleine, mais qui peut aussi être tout à fait intéressant et porter ses fruits.
Alors tout de suite un autre regard, on part pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Olivier Cana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Kinshasa, actuellement engagé dans un master en médecine de famille à l'Université protestante du Congo, et vous collaborez avec l'ONG de défense des droits de l'enfant CARÉO, Centre des abandonnés et réintégration des enfants orphelins. On a évoqué tout à l'heure avec nos invités justement la difficulté de quantifier, d'avoir des chiffres sur ce problème, sur cette question de la maltraitance. Alors comment faire quand on se trouve dans un pays comme la République démocratique du Congo, docteur Olivier Cana?
Déjà, comme vous l'avez remarqué, c'est que la quantification des questions liées à la violence de façon générale et plus particulièrement concernant l'enfant n'est pas du jour dans mon pays. La RDC n'a pas aujourd'hui des statistiques connues en termes de violences faites à l'enfant de façon générale. Et quelques chiffres que nous avons, ça ressort des différentes agences ou des organisations non gouvernementales qui travaillent dans les domaines. Et ce sont des chiffres mortels qui sont liés à certains coins, à certains milliers. Mais on ne peut pas aujourd'hui, de façon générale, donner des statistiques nationales en termes de violences juvéniles dans mon pays.
Et puis on imagine aussi qu'avec le respect dû aux aïeux, hein, aux parents en général, eh bien ça peut limiter la libération de la parole pour dénoncer ces maltraitances. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le témoignage de Idi au Cameroun. Il y va d'ailleurs du maintien au sein de la cellule familiale.
Absolument, absolument. Et qu'aujourd'hui dans mon pays, si vous avez peut-être une idée, nous avons tout un phénomène que nous appelons les Kuluna, ou les affaires abandonnées, les affaires de la rue vulgairement appelées, qui sont la résistance ou les reflets de cette violence juvénile faite au niveau des différentes familles, et que les enfants qui trouvent des refuges au niveau de la rue, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas autre part où il faut aller, ils ne trouvent pas. Et c'est absurde que les parents qui sont censés être leur protection première, ceux qui devaient s'appuyer, se retrouvent être les bourreaux sur quoi ils doivent tout le temps faire face à qui ils doivent résister. Et à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils trouvent comme réfugiés les lieux où ils peuvent trouver un peu de pétition entre eux, la lurie de Kinshasa, la grande ville de mon pays.
Et d'autant plus qu'il y a en plus, hein, en RDC, on le sait, ces situations de crise qui peuvent encore amplifier certaines de ces violences, docteur Cana.
Absolument, il y a tout ce qui va avec. Il y a des guerres dans certains coins, il y a tout l'abandon des services sociaux qui n'interviennent plus, et qui est, de façon générale, les familles à raison, à tort, se retrouvent dans des difficultés réelles de continuer à comprendre réellement ce que c'est la violence, et ils s'y mettent à poser des actes qui, de façon inconsciente, ils ne savent pas déjà que ça c'est considéré comme une violence à part entière pour l'enfant qui les subit de jour au jour, et qui peut être un élément déclencheur d'une déviation complète d'une vie, avec toutes les conséquences possibles. Ces enfants qui deviennent violents dans les rues de Kinshasa, qui tuent à la longueur de nuit, ils deviennent des à des pas des brigands qui tuent les ceux qui étaient censés être leurs parents du jour au jour, et qui créent une sorte de cercle vicieux. Donc malheureusement, c'est la réalité quotidienne de mon pays.
Même si, docteur Olivier Cana, il y a des lois en RDC qui existent pour protéger les enfants.
Oui, aujourd'hui, madame, on peut parler de la loi portant protection de la femme qui interdit les châtiments corporels et tout autre type de violence faite à la femme. Mais ça, c'est une loi qui a été promulguée depuis et aujourd'hui, sa mise en pratique pose un problème. Déjà, elle n'est pas connue de beaucoup de gens, des intellectuels comme les membres de famille ou même des cadres de la société. Ils ne maîtrisent pas déjà ce que c'est le contenu de cette loi-là. Au point qu'aujourd'hui, tu peux encore retrouver dans les différentes couches sociales de la société congolaise les parents qui se livrent à ces violences de différents types auprès des enfants, et parce que la loi n'est pas maîtrisée, elle n'est pas sensibilisée. Il n'y a pas aujourd'hui, à notre connaissance, la CARE vraiment n'est pas aujourd'hui informée d'une fois où il y a eu des procès, où on a condamné les parents, où on a puni les parents sur le plan juridique parce qu'ils ont eu à manifester ou à être violents à l'endroit de leurs enfants.
Ça c'est pas produit. Encore beaucoup à faire, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, docteur Kana. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Kinshasa en RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Dernière partie de notre échange dans Priorité Santé consacrée aujourd'hui à la maltraitance infantile. Sarah Laporte-Daube, le temps passe très vite. On a eu peu de temps pour parler de la reconstruction. Pourtant, différentes approches thérapeutiques permettent d'améliorer la détresse, la situation des enfants qui ont subi des maltraitances.
Oui, il est vraiment important de rappeler que malgré toutes ces souffrances-là dont on a eu témoignage à l'instant, eh bien, il est possible aussi de pouvoir se libérer de ces blessures-là à travers une démarche thérapeutique et avec un certain nombre d'outils. On peut citer par exemple le MDR qui permet de traiter les traumatismes grâce à une désensibilisation et qui fait que on peut mettre les situations traumatiques, les souvenirs à distance et les ranger, je dirais, dans un tiroir de sa mémoire. Il y a toutes les méthodes aussi de type hypnose ou en tout cas modification de l'état de conscience qui peuvent permettre de digérer les émotions traumatiques, de pouvoir aussi amener un reparentage, c'est-à-dire que le thérapeute va reparenter son patient et ensuite le patient, en tant qu'adulte, va pouvoir reparenter son enfant intérieur. Donc voilà, il y a toutes ces approches là qui sont très intéressantes, qui évidemment doivent être pratiquées par des professionnels dûment formés à ces méthodes-là. Donc c'est important aussi, quand on consulte, de pouvoir, pourquoi pas, se renseigner à l'avance sur les méthodes pratiquées par le psychothérapeute. Voilà. Mais le plus important, je dirais, au-delà des méthodes, ça reste la relation thérapeutique et de pouvoir être entendu dans sa souffrance. Je me souviens d'une patiente qui m'avait dit, après, qui était venue me voir pour un problème d'inceste, et qui m'avait dit « merci de m'avoir cru ». Et je crois que ça, c'est le plus important, être cru, être entendu, qu'enfin la parole de la victime soit prise en compte.
Trouver quelqu'un à qui en parler. Merci beaucoup, Sarah Laporte-Daube. Je rappelle que vous étiez en direct de Grenoble. On salue une nouvelle fois nos confrères de France Bleu Isère pour leur hospitalité. Et merci beaucoup à vous, docteur Cédric Rouchka, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, d'avoir été en direct avec nous dans les studios de RFI. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute notre équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Juliette Brault, Didier Bleu, Laurence Snow. Aujourd'hui, demain, toutes vos questions au docteur Catherine Solano, sexologue. Le thème du jour, ce sera complexe et sexualité. On attend vos témoignages et vos questions au 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.